micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur, pas de l'alu, que de la lutte.
De 12h30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Salut, salut, c'est donc Micro-ondes qui reprend les ondes, voilà, et donc on est aujourd'hui le 8 avril, dimanche 8 avril, et voilà, on est donc avec des invités pour revenir d'abord sur, donc on est super content d'accueillir donc 4 personnes vivant en squat, et notamment pour nous parler de la fin de la trêve et du squat comme aussi mode de vie et comme mode de lutte sur les questions de logement. Voilà, bienvenue à vous.
Bonjour.
Salut.
Et juste un peu avant, on s'écoutera du coup un autre montage sur les luttes, mais cette fois les luttes à Toulouse, et du coup sur les questions de racisme, d'immigration, d'asile, et aussi du coup un petit peu autour du logement. On va donc du coup commencer par s'écouter un montage, et on remercie notre envoyé spécial qui a bien voulu faire le déplacement à Toulouse, et surtout réaliser ce grand montage qui nous permettra de revenir un peu sur ces luttes-là. Et puis juste après, on retrouve du coup nos invités, Léla, Ondina et Karl notamment, pour parler de ces questions. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Du 15 au 24 avril 2016, se tenait à Toulouse 10 jours d'autodéfense populaire. Au programme, des discussions, des concerts, des ateliers, des expos, une web radio. Beaucoup de thèmes y ont été abordés, comme les violences policières, l'islamophobie, les logements et squats, les quartiers populaires, les luttes féministes et LGBT, et bien d'autres. De nombreux collectifs et associations de Toulouse et d'ailleurs s'y sont retrouvés. Micro-ondes était également présent, et nous vous proposons d'écouter ce reportage réalisé à l'occasion de la journée dédiée aux luttes des migrants et migrantes et de leur soutien.
Nous sommes le collectif Étrangers Malades. Nous sommes des personnes concernées par le droit au séjour pour raisons médicales, soit directement, c'est-à-dire des personnes qui sont malades, ou indirectement, des conjoints ou des parents d'enfants malades. Nous existons depuis 2011, suite à la loi Besson, qui a considérablement restreint le droit au séjour pour raisons médicales. On parlait avant de disponibilité, d'accessibilité de traitement pour les personnes malades. La loi Besson a restreint ce droit-là et on parle plus que de disponibilité de traitement. C'est-à-dire si la personne dans son pays d'origine n'a pas accès à un traitement ou une prise en charge dans une autre grande ville, si elle habite à 400 ou 500 km et n'a pas accès à ce traitement ou sa prise en charge, elle n'est pas considérée comme personne désirable ici en France. Aussi, l'accessibilité, on parle aussi de matériel, c'est-à-dire de finances. Il n'a pas les moyens de se faire soigner dans son pays d'origine. Depuis 2011, on lutte contre l'isolement des personnes concernées par le droit au séjour. On se partage nos expériences, nos parcours, on échange. Il y a une solidarité entre personnes concernées. On s'autoconseille, il y a des informations qui sont données à des personnes qui sont simplifiées. On comprend mieux quand une personne parle de par quoi elle est passée, comment elle a fait telle ou telle démarche. C'est plus compréhensible que quand on voit un professionnel, quand un médecin ou un travailleur social explique le parcours qui est très compliqué, complexe. Ce collectif se réunit toutes les semaines, tous les vendredis, dans un centre de santé. C'est la case de santé qui nous ouvre un espace de solidarité, de partage, de soutien entre personnes concernées. Et ça nous apporte beaucoup de choses. On lutte ensemble, on se mobilise contre les pratiques illégales de la préfecture ou des institutions pour défendre ce droit parce qu'il risque de disparaître.
Tous les vendredis, on vient ici pour partager notre problème. On est comme une famille. Sinon, on va rester isolé avec notre maladie.
Je fais partie du collectif Étrangers Malades. J'ai accompagné mon mari, qui est malade. Quand on était venu, on ne connaissait personne, on ne connaissait pas nos droits. On était déboussolés. Alors, on est venu ici et c'est grâce à la Case de la Santé qu'ils nous ont orientés travers toutes les administrations, les papiers qu'il faut faire, et ainsi de suite. Et alors la difficulté, voilà, quand je suis venue et que j'ai demandé de me donner rien que le formulaire, le dossier pour remplir et tout, on m'a fait revenir 5 fois. Alors que normalement, ils doivent d'abord étudier le dossier et donner un refus au moins après. Mais quand la personne elle se présente, elle demande un dossier, ils ne donnent pas. Alors 5 fois. Et après, il y a quelqu'un qui est venu m'accompagner jusqu'à la préfecture pour qu'elle voie comme un témoin. Et au bout de la 5e fois qu'on m'a donné le dossier.
Justement, en parlant de l'accueil à la préfecture, c'est le supplice, c'est-à-dire la personne, quand elle a un rendez-vous, la personne est angoissée, nerveuse, stressée, tout ce qu'il y a comme émotion forte, même si elle est accompagnée. Ce qui se passe là-bas, c'est vraiment indigne. Les personnes qui sont là pour demander quelque chose au guichet, souvent ils demandent un droit. Ils sont traités d'une façon inhumaine. Justement, c'est pour ça qu'on a parlé de ce point-là, qui est très important, l'accueil au guichet, parce qu'on est passés tous par là, tous et toutes. C'est l'angoisse de chacun de nous. Quand on sait qu'il y a une charte qui oblige les agents, les personnes qui travaillent en préfecture, de respecter et qui ne respectent pas, on est indigné, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a dévoilé ou fait le point sur ce genre de situation, ce genre de difficultés rencontrées.
Bonjour, bienvenue à la réfecture de la Haute-Garonne. Veuillez patienter. Numéro 492.
Bonjour madame, je m'appelle madame HH.
Non, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour les présentations. Qu'est-ce que vous voulez?
J'ai apporté le dossier que vous m'aviez demandé.
Alors, voyons vérifier. Est-ce que vous avez bien apporté votre passeport, votre acte de naissance, votre permis de conduire, vos factures EDF, GDF, avis d'imposition 2015, 16, 17, 18, 19, 20, votre carnet de vaccination, votre vaccin contre la rage? Vous m'avez l'air un peu énervée, madame. Et votre acte de décès?
Je ne suis pas encore morte, madame.
Très bien, on s'en passera. Alors, voyons voir. Ah non, mais écoutez, il nous manque encore une petite dizaine de documents. Vous êtes toujours sans papier. Merci, vous pouvez rentrer chez vous.
Je reviens quand il manque quoi comme papier?
Alors, il vous manque le CERFA 2492, le FSP 7901 et votre permis de conduire français. Merci, madame. Au suivant, numéro 494.
Bonjour.
Oui, veuillez vous exprimer clairement, madame, je ne vous comprends pas.
Je comprends pas.
Écoutez, madame, nous sommes à Toulouse, nous sommes en France, il va quand même falloir apprendre à parler français, hein? Si vous voulez vous intégrer. Bon, écoutez, moi, j'ai pas de temps à perdre avec vous, hein? Allez, au suivant. Numéro 495. Numéro 495! Bon, on se réveille?
Oui, bonjour, madame. Je suis demandeur d'asile dublinais depuis quelques jours.
Vous êtes demandeur d'asile dublinais? Oui, monsieur, oui, je vais m'occuper de vous. C'est bon, j'ai un client pour vous, là, vous m'embarquez tout ça au centre de rétention, allez, on circule! Voilà, allez, merci enfin pour ce soir.
On parle souvent de dignité, c'est vrai, parce que les personnes, s'ils quittent leur pays, ils laissent une partie de leur vie dans leur pays d'origine, ce n'est pas pour venir faire du tourisme médical, comme on l'entend souvent, mais c'est pour justement se sauver, parce qu'on n'est pas suicidaire, parce qu'on aimerait vivre, non pas aussi parce qu'on est des aventuriers, on aimerait faire une aventure et être en galère vers un pays souvent qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas la culture, on ne connaît des fois pas la langue. Et toutes ces difficultés rencontrées font qu'une personne qui vient ici en France passe une partie de son parcours, de sa vie en galère multiple, hébergement, tout. Toutes sortes de galères rencontrées quotidiennement. Et l'administration rajoute tout ça. Et justement, on le dit souvent, on a deux combats à mener. C'est un combat contre la maladie et le combat contre l'administration. Et c'est pas facile quand on est seul. Les chanceux sont ceux qui ont des personnes qui les accompagnent ou qui sont soutenus par des collectifs ou des associations. Mais c'est un parcours du combattant.
Pourquoi on est là? On est là pour nous soigner, mais on a laissé derrière nous des enfants, des petits-enfants. Chez nous, s'il y avait les matériels, on ne venait pas en France. Chaque personne, il faut qu'il ait son droit. Et c'est le droit. Le droit, on nous disait que la France, c'est un pays de droit. On connaissait le droit. On connaissait ce mot-là. On est des êtres humains. Il faut regarder l'humanité. Mon problème et les problèmes des autres, c'est pareil. On a le même problème. Alors, au moins, il faut regarder la situation des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui faisons les galères. Mais peut-être demain aussi, c'est la France. Il faut regarder bien. On a besoin l'un et l'autre aussi. Alors, nous, on entend notre droit et on va combattre tous les jours pour notre droit. Si on nous a dit aussi de quitter, on ne quitte pas. Parce que notre pays aussi, c'est attaché à la France. On se connaît bien. Notre pays, c'est Djibouti. Son pays, c'est Algérie. On a vécu avec la France.
Nous avons déjà collaboré avec d'autres collectifs qui nous soutiennent, bien sûr, qui sont là quand on a besoin d'eux pour des mobilisations, que ce soit devant la préfecture, que ce soit devant le tribunal administratif pour soutenir des personnes qui risquent l'expulsion vers leur pays d'origine alors que ces personnes risquent de mourir chez eux. On a eu cette idée, enfin l'idée d'organiser cette demi-journée d'information, d'échange avec un grand public, avec des personnes concernées, pour montrer cette humanité qui existe entre nous, entre personnes qui sont touchées directement, mais aussi avec des personnes qui sont au quotidien à côté des personnes en galère. Ce que je voulais rajouter en plus de cette journée, c'est que pourquoi notre collectif existe toujours, parce qu'en ce moment, justement, notre lutte va être de plus en plus intense. Peut-être parce qu'il y a depuis 2014, on a constaté qu'il y a de plus en plus de refus de séjour pour des personnes concernées par le droit au séjour pour raison médicale, qu'on expulse des personnes qui ont VIH, des personnes qui ont l'hépatite, des personnes qui ont des maladies graves, qui ont un cancer et qui n'ont pas de prise en charge dans leur pays d'origine. Et c'est grave, c'est très grave. C'est souvent des décisions complètement arbitraires et quand on voit dans quelles conditions et pourquoi, on remarque que c'est des pratiques illégales, c'est des abus. Ça pousse des personnes à aller vers le tribunal administratif, souvent à la cour d'appel de Bordeaux, et attendre des mois et des mois en galère, sans ressources, sans aucun droit. On pense que c'est illégal, enfin c'est inhumain et c'est indigne d'une nation comme la France.
Les médicaments, ça ne nous sert à rien tant qu'on est vraiment dans la galère. On nous soigne, mais à quoi ça sert? On n'est pas stable.
Parmi les abus aussi de la préfecture, ce qu'on a constaté depuis un moment aussi, depuis 2013-2014, que le préfet, autant qu'administration, pousse les personnes au guichet, enfin les agents de la préfecture, poussent les personnes au guichet, par ignorance des fois de leurs droits, de donner des éléments médicaux au guichet, juste pour prouver que la personne est malade. Alors que ce n'est pas à la préfecture de prouver qu'on est malade, mais à un médecin. Mais le fait que la préfecture, le préfet et ses agents font des contre-enquêtes, c'est-à-dire ils poussent les gens à donner des éléments médicaux et qu'ils appellent le pays d'origine pour poser des questions et ils dévoilent le secret médical, c'est des patients n'ont pas donné l'autorisation à la préfecture de connaître déjà leur maladie et d'être au courant de ce qui se passe dans leur parcours médical. Et le préfet s'assoit sur tout ça et va appeler des médecins et dévoile, donne des éléments médicaux. Des fois, c'est même pas détaillé. C'est-à-dire, ça arrive souvent qu'un agent trouve une ordonnance dans la pile de documents déposés au guichet. Il appelle pour demander s'il y a du paracétamol ou du doliprane ou j'en sais quoi. Et il dit, ah, c'est bon, le traitement existe, allez, vous pouvez y aller vous soigner chez vous. Alors que la personne a un cancer peut-être ou a une autre maladie très grave. On n'est pas bête, on sait que le doliprane existe dans le pays d'origine. On n'est pas là en galère pour avoir de la paracétamol ou de doliprane, mais on est là parce qu'on risque la mort dans notre pays d'origine. Et c'est pour tout cela, on s'indigne, on lutte, on agit pour ne pas subir encore et encore ces pratiques illégales. On a su qu'on est le seul collectif de personnes concernées qui existe, qui lutte pour le droit au séjour pour raison médicale en France. C'est pour ça qu'on encourage d'autres collectifs de personnes concernées comme nous de créer ces collectifs-là dans d'autres villes en France parce que notre lutte est la même et c'est mieux d'être acteur de son histoire, de son parcours.
Je suis membre du collectif des étrangers malades. Tout à l'heure, j'ai animé un atelier sur les personnes sans papier en cas d'arrestation. Comment faire en cas d'arrestation ? Avant, je n'avais aucune notion du système, comment vivre ici, puisque je n'y avais jamais été. C'est quand j'ai reçu à la maison la visite des policiers. Ils se sont mis à me menacer, à fouiller partout dans la maison, moi je ne sais pas. Alors je leur ai dit que j'étais malade. Ils m'ont dit que la France, ce n'est pas l'armée du salut. J'étais dans l'obligation de quitter la France, même étant malade. Bon, ils m'ont donné 48 heures pour me présenter à l'aéroport avec un billet d'avion. Du coup, je me suis rendue à la CIMADE avec les conseils des riverains. La CIMADE, après lui avoir présenté les papiers que j'avais avec moi, les papiers de l'hôpital, m'a envoyée à la case de santé. Et depuis, je suis suivie par la case de santé. Je suis d'abord suivie par un médecin spécialiste. Mais la case de santé me sert de médecin traitant parce que c'est elle qui me suit et me soutient habituellement. Et à la case de santé, j'ai constaté qu'il y avait non seulement des médecins, mais il y avait d'autres travailleurs sociaux et même des juristes qui venaient, des avocats qui venaient de temps en temps nous informer, nous assister. Et c'est pour cela que je me retrouve là aujourd'hui. Quand on se retrouve devant une situation où la police vous interpelle, ou bien vous n'avez pas de papier, c'est le mental qui travaille. Et tout le monde sait que quand le mental n'est pas au beau fixe, ça affecte également le physique.
Je m'appelle Laura Guetta, je suis assistante sociale à la case de santé depuis à peu près 2 ans et demi. La case de santé, c'est quoi ? C'est un centre de santé communautaire qui est créé depuis 2006 sur la place Arnaud-Bernard, dans le quartier populaire, mixité sociale. Donc au vu de son territoire, on accueille une population majoritairement immigrée qui sont victimes d'inégalités sociales. On a développé certains programmes, notamment pour les personnes âgées immigrées, qu'on appelle les Chibani. Donc c'est un collectif qui se déroule tous les jeudis, qui est animé par une assistante sociale arabophone, qui a pas mal travaillé avec eux et notamment sur leurs problématiques propres, notamment sur l'ASPA, qui est la retraite minimum. Donc il faut savoir que les personnes, les Chibani, donc immigrés de plus de 60 ans, qui perçoivent l'ASPA, n'ont pas le droit de quitter le territoire français depuis plus de 6 mois. Et donc il y a eu pas mal de contrôles, donc la case de santé s'est pas mal investi là-dessus pour pouvoir lutter. Ensuite on a d'autres programmes, donc santé des femmes, on pratique des IVG médicamenteuses avec un programme un peu plus large justement sur la santé des femmes, donc contraception, etc. Et ensuite on fait beaucoup de droits au séjour pour raisons médicales. La case de santé, elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui travaille en coordination. Donc on a 3 médecins généralistes, 4 maintenant, une psychologue, des médiateurs en santé et une équipe sociale composée de 4 travailleurs sociaux et un coordinateur administratif. À la case de santé, on fait appel à un système d'interprète par téléphone professionnel qui s'appelle ISM, qui coûte extrêmement cher. C'est un budget, mais c'est un choix qu'on fait. On a aussi donc des actions collectives où on a pas mal de bénévoles qui viennent s'inscrire là-dedans. Notamment des bénévoles, par exemple, il y a pas mal de personnes de la clim. La case de santé militante, enfin, nous, pour nous, c'est du bon sens. Notre travail, c'est l'accès aux soins, évidemment, mais c'est aussi l'accès aux droits. Et ça passe aussi par la défense des droits des usagers. La case de santé, c'est un centre de santé communautaire. Il est à l'initiative de 4 personnes en fait, sur la question de repenser la médecine, mais de la repenser de façon globale, c'est-à-dire que la santé, elle passe pas par les médecins, elle passe surtout par l'environnement. Les gens qui subissent en fait, des inégalités, ça a une atteinte sur leur santé. C'est pour ça que c'est une équipe qui est composée de médecins et de travailleurs sociaux, et aussi de médiateurs en santé. Au début, en fait, c'était sur une initiative, on va dire, privée, puisque ça a été acheté par une des personnes qui a monté le centre de santé. Puis au bout de 4-5 ans, en fait, il a fallu composer avec les pouvoirs publics. On finance aujourd'hui une grande partie du budget par les pouvoirs publics, notamment l'Agence régionale de santé. Et on se rend compte en fait que le modèle qu'on défend, qu'on appelle les inégalités sociales de santé, donc c'est un mot un peu générique mais qui englobe toute la question des rapports hommes-femmes, toute la question justement des personnes qui sont sans papier, sans logement, et sur lequel en fait si on mène pas une action, les gens ont une santé beaucoup plus fragile que d'autres. Malgré tout ce que peut défendre le ministère de la Santé, en gros aujourd'hui, c'est un modèle qui reste en difficulté. Puisqu'il y a maintenant un an, en fait, on a dû se mobiliser pour défendre la structure en menant un rapport de force progressif sur 2 mois. En posant avec la presse des mobilisations devant la préfecture, en rencontrant la sous-préfète, en rencontrant aussi l'Agence régionale de santé. On a poussé les pouvoirs publics à devoir se rassembler pour les financeurs, pour à un moment donné reconnaître notre modèle. Et on a aussi demandé à tous les partenaires, tout le réseau toulousain qui aujourd'hui montre qu'on est en fait un incontournable à Toulouse sur la question d'un centre de santé de premier recours qui est dans un quartier populaire et qui du coup brasse plus que d'ailleurs ce quartier populaire. On n'est pas un centre de santé qui touche que ce quartier-là. Un des points forts en fait du centre de santé, c'est de penser que tout passe par les usagers. C'est eux qui se sont mobilisés il y a 2 ans, principalement. On a fait un comité de défense qui a été monté par les usagers, défendu tous les samedis. Les gens se fédéraient pour savoir construire les communiqués de presse, savoir les stratégies. Donc on a aussi visibilisé nos finances, parce que ça ne nous concerne pas que nous. Donc c'est important de dire aussi qu'on ne défendait pas nos salaires, mais un projet, une idéologie aussi. La case de santé aujourd'hui, c'est un outil. Donc on a un espace qui est aux usagers, où les gens qui subissent des oppressions peuvent construire une lutte. Donc c'est là notamment pour le collectif Étrangers Malades. Il y a un espace aussi pour la santé des femmes. Il y a un groupe d'usagers sur la question des traitements de substitution, où en fait le rapport au médecin est souvent, on psychiatrise en fait justement, ou on médicalise trop. Et aujourd'hui, c'est un collectif qui existe et qui est autonome, où tous les mois, en fait, ils renouvellent leur traitement ensemble. Ils créent des liens, ils font des projets, ils font de la vidéo, ils défendent aussi qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficultés, quel regard une société peut avoir sur eux, notamment les pharmacies, etc.
Moi, je suis médecin à la case de santé depuis très récemment, depuis quelques mois en fait. Je suis rentré à la case de santé par le biais en fait du bénévolat sur un engagement autre que la médecine en tant que telle. C'était plus, il y a un groupe qui s'est créé maintenant il y a 4 ans au sein de la case de santé, un groupe d'internes bénévoles. Qui s'est créé autour en fait du droit au séjour pour raison médicale. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin de faire de l'accompagnement médical autour de cette question d'accès au droit et au titre de séjour étranger malade. Et donc j'ai connu la case de santé parce que aussi je cherchais une autre forme de médecine. Parce que la médecine qu'on nous apprend à l'école, elle est très formatée en fait. On t'apprend à être en cabinet, à gérer un budget, à gérer tes fiches fiscales, etc. Et on t'apprend pas à changer d'angle de vue et d'aller voir autre chose que des patients et un médecin derrière un bureau en fait. Bon, nous on est salariés, on est encore dans le paiement à l'acte. Et ça c'est un truc qu'on défend aussi, la tarification à l'acte, c'est un truc pour lequel on n'est pas forcément d'accord. Il y a plein de raisons, mais ça empêche entre autres de faire de la prévention en fait. T'es dans le curatif et ça, c'est un espèce de cercle comme ça où du coup tu soignes le patient, tu re-soignes le patient, tu le revois plusieurs fois. Alors que si en fait c'était par exemple un système de forfait où le patient paierait à l'année, tu ferais pas en sorte de revoir le patient plusieurs fois parce que t'as aucun intérêt financier à le faire. Tu ferais en sorte que le patient vienne te voir le moins de fois possible et du coup tu ferais beaucoup plus de prévention et tu ferais en sorte qu'il se sente bien et qu'il soit dans un bien-être global quoi.
Quelque chose qui est quand même un bon moteur aussi à la case de santé, notamment dans les collectifs, c'est de dire aussi que la convivialité c'est aussi un outil qu'on utilise. Quand on parle de solidarité, tous les moments qu'on peut passer autour d'une table avec les usagers, tous les moments que les usagers même peuvent passer entre eux autour d'une table, ça crée des liens et que ça déconstruit aussi. Ça déconstruit des postures, ça déformate les postures professionnelles qu'on peut avoir et puis ça apprend à connaître aussi les gens autrement et de les voir justement plus comme des malades ou des numéros de dossier. Du coup, on peut échanger aussi de façon informelle sur des questions de santé ou pas, ou des questions de droit, de l'accès au droit. Et ça se passe souvent entre usagers, pas forcément avec nous, des fois avec nous aussi, mais ça, c'est un bon moteur en fait au centre de santé.
Le collectif dont je fais partie s'appelle le Gypsy. C'est dans la case de santé. C'est un collectif au départ d'internes, d'étudiants en médecine, pour faciliter l'évaluation et l'obtention de titres de séjour pour raisons médicales. C'est une des médecins de la case qui a monté ça et qui a accueilli des internes pour aider et à la fois se former. Donc c'est vraiment les deux en même temps. Il y a un travail en parallèle avec les travailleurs sociaux de la case de santé. Donc il y a une évaluation sociale, puis nous, notre rôle c'est d'évaluer le dossier médical et d'évaluer si ça va passer ou pas auprès de la préfecture de Haute-Garonne, parce que c'est avec eux qu'on travaille. Enfin travaille, non, mais qu'on utilise les critères de la préfecture de Haute-Garonne, même s'ils sont censés être nationaux. Ça dépend vraiment beaucoup du médecin de l'ARS qui évalue les dossiers. On explique ça aux personnes qui viennent nous voir, et puis on regarde le dossier médical, et puis on évalue en équipe si ça va passer ou pas auprès de la préfecture. Ensuite, on explique ça aux personnes pour leur conseiller ou pas de déposer ce dossier. Si on conseille de déposer ce dossier, on les accompagne dans toute la procédure, aller récupérer le dossier à la préfecture, et surtout ce qui est le plus compliqué, c'est aller voir un médecin qui va rédiger ce qu'on appelle le rapport médical et qui va être envoyé au médecin de l'ARS. Ce rapport médical, il faut qu'il signale tous les critères de la loi, et souvent il y a besoin de relecture, et voilà, nous on négocie avec les médecins agréés et avec les praticiens hospitaliers. De notre place de médecin, souvent on est plus écouté que de la place de patient, malheureusement. Si on pense que ça va pas passer auprès de la préfecture, on essaye de trouver d'autres solutions de régularisation. En tout cas, on essaye d'accompagner les gens de toute façon, mais c'est compliqué quand on pense que ça va pas passer. Des fois, ça crée des situations un peu difficiles, sachant que c'est jamais nous qui décidons, mais que évidemment notre avis compte pour la décision, ce qui est logique, sinon les gens viendraient pas nous voir. Ça marche sur le bénévolat des internes, plus les médecins de la case et les travailleurs sociaux de la case de santé. Là, il y a récemment un autre collectif qui vient de se monter, qui est en soutien, qui s'appelle le Gage. C'est des étudiants juristes qui regardent la disponibilité effective dans les pays d'origine pour donner des arguments au moment du dossier, ou s'il y a un refus au moment du recours au tribunal administratif. Comme ça, on a des dossiers un peu plus blindés et ça fait jamais de mal dans le contexte actuel.
Tu passes pas la frontière, tu passes pas. Migrant, mi-petit, ni toi. Et pourquoi ?
Parce que t'as une drôle de fleur.
Parce que t'as une drôle de fleur, hein ? Ah bah tiens, ça c'est une bonne raison. Allez. Tu passes pas. La
Le collectif de la CLIM, c'est d'abord un collectif de lutte et d'information migrants-migrantes. Ce n'est pas un collectif de lutte pour l'aération gratuite. Quoique, un des jingles de la CLIM, c'est quand même de l'air, ouvrez les frontières. Il a été créé en 2014.
La création de la CLIM, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, qui arrivent à Toulouse, une ville où il y a plein de choses qui se passent, où il y a beaucoup d'énergie qui sont mises dans plein de luttes et qui voient pas, qui n'observent pas une grande visibilité de la lutte des personnes migrantes en fait. Et du coup, qui ont envie d'essayer de retranscrire ça et voir de créer des choses et voilà. L'idée, c'est de dire, en fait, il y a des gens qui migrent en permanence, qui ont des problèmes de papier en permanence, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, et qui du coup luttent sur ces questions-là tout le temps. Et en fait, il n'y avait rien de visible au niveau lutte politique de revendiquer la libre circulation de toutes et tous, la destruction des centres de rétention qui sont les prisons dans lesquelles on enferme des personnes juste parce qu'en fait, elles n'ont pas les bons papiers au bon moment, au bon endroit, contre les frontières, enfin voilà.
Et c'était vraiment ça l'idée, de mettre aussi sur l'espace public les questions de migration, les questions d'enfermement et une lecture globale sur les migrations dans le monde, les frontières, les mécanismes d'enfermement, tout ça. Et de ramener ça aussi à la question toulousaine en disant on fait partie de Loire Assiste, il y a un centre de rétention à Toulouse qui est au pied des pistes des avions de Blagnac, il y a des luttes locales, il y a des lieux d'arrestation à Toulouse.
Pour le coup, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait un manque sur cette question-là, et donc le collectif, il a été assez rapidement connu. Et donc, quand on appelle à un rassemblement, il y a quand même un peu du monde qui vient. Là, on a mis en place une permanence juridique de soutien, ouais. Dans le sens où on reçoit les gens qui ont des problèmes de papier sur différentes questions. Notre idée, c'était quand même au départ de réussir à mettre en commun les cas individuels pour que chacun puisse trouver de la solidarité entre eux et peut-être monter des luttes aussi collectives. Après, ce qui se passe plus concrètement, c'est quand même les gens ils viennent avec leurs problèmes et on essaye de voir si on peut les aider.
Il y a pas mal de projections qui ont été faites aussi. À des moments, on faisait une projection par mois de documentaires autour des questions de migration, en essayant de faire venir des gens qui avaient participé à l'élaboration du docu, des discussions. Il y a eu aussi la création d'un petit guide sur les bonnes adresses à Toulouse quand tu arrives et que tu n'as pas de papier, où est-ce que tu peux trouver des infos sur le droit à la santé, sur l'hébergement. Voilà, des choses très concrètes en fait qu'on peut diffé sur des tables, sur des marchés, lors de concerts.
C'était en 2015, là, l'opération Maus Mostrum, là. Je sais plus le nom. Bref, en gros, c'était une opération à l'échelle européenne de rafle géante, de mobilisation de toutes les forces de police et d'armée pour chasser, arrêter et contrôler les personnes qui migrent. On a essayé de faire un travail localement d'infos. On a affiché dans les lieux de danger, en fait, pour les personnes, quoi, les gares, les lieux de transport, etc. On essaye de, quand on sait qu'on peut, qu'on connaît, d'organiser des rassemblements devant les tribunaux administratifs pour essayer de poser des petits rapports de force sur des situations de personnes quand on sent qu'il y a quelque chose à jouer et ça fonctionne. Après, on n'est pas hyper satisfait de ça dans le sens où ça reste du soutien au cas par cas, là, entre guillemets, et que nous, en tant que collectif, c'est pas ce qu'on veut, défendre une personne. Mais à la fois, pour l'instant, c'est les petits moyens qu'on a et donc on le fait et on continuera de le faire. Parce qu'en fait, on sait que quand on est 50 devant le tribunal administratif, en fait, il y a quand même une petite pression qui est mise. Et ça peut aider, soutenir des gens, en fait. Et rien que ça leur fait plaisir, en fait. Enfin, quand les gens, ils arrivent encadrés par quatre connards du centre de rétention, là, c'est pas le même accueil quand il y a 50 camarades qui sont là et qui crient « Ouais !»
On fait une émission aussi avec la CLIM qui s'appelle Pour un bout de papier, qui est le troisième jeudi du mois de 19 à 20h sur Canal Sud 92.2. Vous pouvez retrouver aussi les anciennes émissions en podcast sur le blog de l'émission clim.noblogs.org ou sur le site de Canal Sud. C'est un autre type d'action qu'on fait en fait qui permet d'une part de s'informer. Là on essaye plus de travailler vraiment à creuser un sujet. Donc ça nous fait et nous former et le rediffuser. Et après on fait aussi régulièrement des appels sur les cabines du centre de rétention pour avoir des nouvelles de l'intérieur et de les faire ressortir. C'est aussi une manière d'être en contact avec des personnes directement concernées par toutes ces lois racistes et la situation ambiante.
La volonté, c'était donc un collectif mixte, ouvert à tous et à toutes, et donc avec des personnes concernées avec ou sans papier, des personnes soutien, etc. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver le moyen, et c'est un peu l'idée des permanences juridiques, on n'a pas réussi à trouver le moyen pour que les personnes concernées, justement, qui sont dans la galère, que c'est hyper compliqué d'être sans papier, et que c'est pas forcément le premier réflexe de t'organiser pour lutter collectivement, ils puissent y trouver leur compte dans nos modes d'action, etc. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. On en a beaucoup discuté, après on s'est dit, bon, faut arrêter de se prendre la tête. De fait, on n'a que des gens avec papier, autant qu'on fasse bien le taf justement, qu'on utilise ce qu'on est avec les privilèges qu'on a pour bien faire le taf. Par exemple, quand on est avec le collectif étranger malade, on sait qu'on ne va pas faire des trucs dangereux où il peut y avoir des keufs, etc. parce qu'eux, ils sont plus en danger et en plus, ils ne peuvent pas se mettre en danger comme ça. Mais que nous, par contre, on peut faire des trucs tout seul, sur aller faire de la pression sur des institutions de façon plus dure. On peut aller coller, on peut faire des choses qui sont un peu dans nos privilèges de gens avec papier et on prend moins de risques. On a fait une après-midi sur la liberté de circulation d'installation sur une place, la place Arnaud-Bernard.
Il y a eu un petit temps où on s'est réunis un peu avec les différents membres des trois collectifs d'organisation. Et du coup, c'était un peu l'idée de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à lutter sur ces questions-là ensemble? Même si c'était un peu fin de journée et du coup un peu peut-être compliqué de trouver encore l'énergie là-dessus, mais du coup il y a quand même eu des idées, notamment pourquoi pas créer un numéro d'urgence ou un numéro en cas d'arrestation, en tout cas un téléphone qui permettrait de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir mobiliser plus facilement et plus rapidement sur des questions soit d'arrestation, soit d'expulsion à l'aéroport, soit des personnes qui peuvent avoir des questions sur quelqu'un qui s'est fait arrêter, du coup qu'est-ce que je fais, ou des questions même peut-être juridique à des moments donnés. Voilà, donc c'était la proposition d'un outil d'information et aussi de lutte, de moyens de se retrouver, de fédérer plus de personnes plus rapidement sur ces questions-là. Et aussi de voir comment ensemble, déjà au sein de plusieurs collectifs, comment on arrive à mieux communiquer, comment on arrive à refaire des choses ensemble sans que ça prenne forcément la forme que ça a pris.
C'était l'objectif de la journée de largement. En fait, c'est l'objectif aussi des 10 jours, que tous les collectifs se rencontrent, qu'on crée vraiment un réseau de solidarité. Après, on espère que ça sera repris dans d'autres villes, à Grenoble, qui sait, que à la fin, ça soit 365 jours par an d'autodéfense populaire, et voilà, que ça amène aussi à créer des outils et des solutions concrètes pour s'organiser.
Que des choses à inventer, mais en tout cas, il y a des pistes pour le futur.
Pas des pistes d'atterrissage ni de décollage.
On va passer au quiz.
Alors, la liberté de circuler et de s'installer, c'est petit A, long comme slogan, mais c'est la base. Petit B, pas encore sans France, ni ailleurs. Petit C, en luttant qu'on la gagnera. Petit D, un truc de gauchiste ou de naïf, mais quand même, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a du C, on a du C,
on a du C.
Voilà, vous avez compris, en fait, c'est tout est bon, donc vous avez un point. Vous avez un point. Ouais. Deuxième question. Au début des années 90, quel pays a accueilli 1 million de réfugiés, ce qui représentait à l'époque 10% de sa population? Petit A, la Suisse. Petit B, l'Angleterre. Petit C, le Malawi. Petit D, le Costa Rica. Ok, c'est... Ouais, il y a pas mal de C, donc c'est bien ça, c'est le Malawi. Pendant la guerre au Mozambique, il y a une frontière entre le Mozambique et le Malawi. Et donc forcément les réfugiés vont se réfugier au plus près, comme toujours, hein, pour fuir la guerre. Donc c'est juste pour rappeler que 80% des déplacements de réfugiés et d'immigrés se font du sud vers le sud. Donc c'est pas du tout les pays du nord qui accueillent le maximum de gens, c'est bien les pays du sud, notamment dans ce cas-là, qui accueillaient 10% de sa population, et ça ne posait pas tant de problèmes.
Le pourcentage des autoroutes françaises construites par des immigrés. Eh bien, c'est 90%. Il y a aussi les constructions des lieux d'enfermement, comme des prisons ou des centres de rétention, qui sont aussi construits partiellement par des personnes sans papier ou immigrées.
Alors, l'enfermement des étrangers, c'est légal en France depuis 81, 38, c'est systématisé en France depuis les années 90, ou alors tout simplement une injustice xénophobe à combattre. Tout à la fois, on me dit. C'est les quatre, d'accord. C'est effectivement une injustice xénophobe à combattre, là on peut être tous d'accord. Le truc pour l'histoire, c'est quand même que c'est un truc qui a été mis en place avant 39-45, et donc par des gouvernements qui voulaient enfermer notamment les juifs et autres étrangers, qui a été après la guerre un peu abandonné et qui a été remis, relégalisé dans les années 80 parce que c'était utilisé comme méthode déjà dans les années 70, notamment pour enfermer les Algériens sans papier de façon illégale, donc ça a fait un scandale. Donc le gouvernement PS de 81, pour éviter le scandale, il a légalisé l'enfermement plutôt que interdire la pratique. Voilà. Qu'est-ce que le visa Balladur? A, une saloperie, le connaissant. B, un petit papier qui a entraîné des milliers de morts en mer depuis 95. C, un petit changement législatif qui a entraîné la militarisation de la frontière mahoraise. Et D, de toute façon, des visas, on n'en veut pas, liberté de circuler sans restriction. A, B, C, D. On est d'accord, tout est bon. Donc quand même, pour être plus précis, le visa Balladio, donc c'est un visa qui a obligé les personnes qui habitaient dans les Comores d'avoir un papier pour traverser, c'était un bras de mer qui traversait auparavant tout à fait légalement. Donc ils ont militarisé pour ça, pour être sûr que les gens avaient leur papier, militarisé la frontière. Et donc encore une fois, il y a eu des milliers de morts depuis 1995, parce que forcément, et ça c'est pas qu'à Comores, c'est dans tout le monde, les frontières sont militarisées, ce que ça entraîne, c'est les gens vont prendre des routes de plus en plus dangereuses, et c'est pour ça, c'est pas un hasard, c'est pas la mer, c'est pas les passeurs, c'est pas les problèmes de navigation, les embarcations, c'est bien les lois racistes qui enferment l'Europe, qui enferment l'Occident et qui empêchent les gens d'entrer, qui sont à la base des morts en mer, d'accord ? En 2009, après la mort de 15 migrants à quelques mètres de la plage de Tarajal, en Espagne. A. Des policiers ont été condamnés pour avoir tiré sur les migrants qui tentaient de rejoindre la plage à la nage et pour leur avoir envoyé des gaz lacrymogènes. B. Les autorités ont nié leur implication avant qu'une vidéo amateur ayant filmé le drame les contredise. C. Une loi sur les expulsions à chaud a été votée en Espagne. D. Des policiers ont été relaxés pour avoir tiré sur les migrants qui tentaient de rejoindre la plage à la nage et pour leur avoir envoyé des gaz lacrymogènes. La seule qui soit faussée, des policiers ont été condamnés, non ils ont été relaxés, mais ils ont bien envoyé des gaz lacrymogènes et notamment ils leur ont aussi foncé dessus avec un bateau pour les empêcher de rejoindre la plage, parce que l'idée c'était en Espagne, et d'ailleurs en France aussi, c'est que si tu touches le sol national, tu as le droit de déposer un droit d'asile, donc on ne peut pas te refouler à chaud. Mais donc pour ça, vu que c'est compliqué pour ces pauvres pays européens, bah, ils ont inventé une nouvelle loi, même si elle est contredite notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, une nouvelle loi qui fait que aussi ils ont voté donc de la possibilité, même si après un dur voyage tu arrives à atteindre la terre espagnole, tu te fais refouler à chaud. Voilà.
Créa, au début c'était le Créa, le collectif de réquisition d'entraide et d'autogestion. Du coup c'était 8 ou 9 personnes qui avaient décidé d'occuper un bâtiment qui appartenait au ministère, je sais plus quel ministère, le 70 à l'aide des demoiselles, et qui ont, une fois qu'ils ont investi le bâtiment, appelé des personnes à la rue à venir habiter ensemble et créer un centre social autogéré, un lieu d'habitation. Donc ça a duré pendant plus d'un an. Et à la suite de l'expulsion de ce bâtiment, le collectif s'est ouvert et est devenu la Créa, la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion, avec une campagne qui s'appelait Zéro enfant à la rue. Et du coup, le but était d'ouvrir le maximum de bâtiments possibles avec des personnes à la rue et d'habiter ensemble à l'intérieur et de s'autogérer sur tout, sur la bouffe, sur les fringues, de faire des soirées de solidarité, de faire des vacances avec les enfants.
Il y avait aussi des travailleurs sociaux en même temps qu'ils avaient ouvert une maison qui s'appelait Goudouli, qui était accolée en fait au squat du Créa avant. Et après qui s'est maintenue et puis qui n'était pas forcément dans le même mode d'organisation, on va dire. Mais à la base, c'était ça. Et puis après, par contre, il y a eu l'expulsion et de là, plusieurs centres sociaux ont été ouverts chaque année, on va dire, à peu près.
Ça n'a pas toujours été comme ça, mais vraiment ces derniers temps, c'est un collectif d'habitants qui est formé par avance et qui décide le bâtiment à investir, sous quel mode, est-ce que ce sera un centre social ou pas, ou est-ce que ce sera un bâtiment d'habitation. Voilà. Et peut-être la copine, elle peut raconter aussi, parce qu'elle, elle vit dans une des maisons.
Moi, j'habite dans un squat à Marengo. Et avant, j'étais aussi dans un squat à Roseraie avec des familles, des enfants. Franchement, c'est trop bien. Et moi, quand je suis venue ici, je trouvais pas mal de personnes, pas mal de gens de la Créa qui m'aident beaucoup, qui font plein de trucs pour des gens qui sont dans la rue et tout. C'est comme ça que j'ai connu la Créa.
Il y a aussi, dans ce que propose le centre social, on va dire de l'accompagnement pour les démarches administratives, les galères, les déboires administratifs. Souvent, on me demande d'accompagner, et parfois même, bizarrement, des gens qui parlent bien, très bien le français, qui sont très autonomes au quotidien pour vivre et qu'il n'y a pas de soucis, quoi, et qu'ils subissent quand même des humiliations dans les administrations.
En fait, les difficultés que je trouve que la police, ils nous cherchent beaucoup de choses, comme par exemple les expulsions à chaque fois. C'est ça que j'aime pas. J'ai toujours peur de ça.
La Créa, depuis 5 ans d'existence, c'est sûr, on a subi beaucoup de répression. Au moins 70 bâtiments ouverts, du coup presque autant d'expulsions avec le lot d'humiliations, d'arrestations, de personnes qui se sont retrouvées en centre de rétention. C'est arrivé aussi à la suite d'une expulsion. Et ça, c'est des arrestations pour outrage, personnes qui ont été expulsées, quelques personnes qui sont retrouvées en prison aussi parmi nous. Aussi sur une expulsion il y a 2 ans, du coup, on a eu un gros épisode de répression où on allait quitter les bâtiments parce que la présence policière était super forte. On savait qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Puis la BAC a décidé de faire des arrestations ciblées et... Il y a eu un tir de flashball du coup qui est venu viser la tête d'un camarade qui s'est retrouvé très blessé à la suite de ça et qui a toujours des séquelles 2 ans après. C'est un peu à la suite de ça, il y a plus de 2 ans, qu'on a décidé de faire et d'alimenter une caisse anti-répression. Cette caisse, on l'alimente par des festivals, comme le festival qu'on est en train de faire en ce moment, là, les 10 jours d'autodéfense, mais par 2 autres sessions qu'il y a eu auparavant, et des concerts, etc., des cantines de solidarité. Puis il y a d'autres collectifs qui nous alimentent aussi la caisse de temps en temps. Et cette caisse, elle sert essentiellement au mandat pour les personnes qui se retrouvent en prison, pour les personnes qui sont en centre de rétention, à payer les amendes. C'est aussi des amendes pour le quotidien, des amendes pour pas avoir de ticket dans le transport. Pour les personnes qui ont besoin de refaire leurs papiers, qui ont besoin de rentrer au pays ou d'aller à Paris au consulat ou quoi. Et voilà, là le but aussi pendant le festival, c'est de voir ce qui se passe avec les autres caisses de solidarité comme la CAGE, la caisse d'autodéfense juridique et des caisses de solidarité dans d'autres villes. Voir comment on peut les mutualiser peut-être quand il y a un besoin dans telle ville et que nous on a un peu d'argent dans la caisse du coup pour débloquer des fonds et pareil dans l'autre sens, mais pour faire un réseau entre ces caisses d'autodéfense. Vive la créa.
Vive la créa.
Jedes Wort, jeder Satz und jeder Text repräsentiert, was in dir wächst. Alle deine Statements und Fragen am Ende sind Teil deiner Handlung, sie tragen dein Denken. Denken verknüpft sich mit Identität, deshalb ist es für Veränderung nie zu spät. Du sagst und performst, wie du liebst, was du lebst, damit dieser Wille nie wieder geht. Was du äußerst, ist in Verbindung mit Äußerem, mit Welt und Gesellschaft, Tradition und Gebräuche, mit Wissen und Mächten, Strukturen und Bedeutung. Alles darin ist konstruiert wie Gebäude, denn nichts fällt vom Himmel und ist einfach nur da. Oder noch schlimmer, es sei, deshalb wahr, jede und jeder trägt dazu bei, denn Freiheit geht ihren Weg nicht allein. Klar, die da oben, aber sind doch wir doch nicht, wenn wir oben nicht akzeptieren. Wir schaffen Strukturen, die uns unterstützen, bei alten Normen und Formen und sich nützen. Yeah, mich berührt deine Wut. Le futur est présent, le futur est à nous. No borders, no orders. Wir stehen zusammen, Zeit für Solidarität. Tamam! Jedes Wort, jeder Satz und jeder Text repräsentiert, was in dir wächst. Alle deine Statements und Fragen am Ende sind Teil deiner Handlung, sie tragen dein Denken. Denken verknüpft sich mit Identität, deshalb ist es für Veränderung nie zu spät. Du sagst und performst, wie du liebst, was du lebst, damit dieser Wille nie wieder geht. Macht geht nicht nur von oben nach unten, du hast Macht als Bedrohung empfunden. Hol dir alles zurück, was das System dir nahm. Deine Sprache, deine Kraft, deine Schönheit.
Et donc on est toujours sur micro-ondes, sur Radio Kaléidoscope, l'émission du coup qui prend les ondes chaque dimanche de 12h30 à 14h. On est aujourd'hui le 8 avril et on vient de s'écouter un super et un long reportage sur donc un reportage, peut-être est-ce que tu veux reparler un peu du contexte, Françoise, toi qui étais notre envoyée spéciale à Toulouse?
Oui, donc comme c'est dit dans l'intro au début, ça a été réalisé lors des 10 jours d'autodéfense populaire qui ont eu lieu il y a 2 ans à Toulouse. Donc c'était particulièrement sur la journée des luttes migrants, migrantes et des personnes qui les soutiennent. Et pourquoi ce reportage maintenant, au-delà du fait que peut-être ça a été un peu dur de s'organiser pour le faire avant et qu'on a toujours d'autres choses à dire, c'est que surtout là c'était l'occasion de mettre un peu à l'honneur ces rencontres parce qu'il y a une nouvelle édition qui a lieu cette année. Du 14 au 22 avril. Et voilà, vous pouvez aller voir le programme. Ça va à nouveau parler de plein de thématiques différentes. Et ce programme, il se retrouve sur le site autodéfensepopulaire.net. Voilà, donc pareil, il y aura des animations diverses, des ateliers, des concerts, des projections, des discussions. Enfin, vraiment plein de choses. C'est très riche. Je vous invite vraiment à aller voir. Et alors, pour préciser quelques trucs, du coup, comme c'était il y a 2 ans, il y a des choses qui ont changé depuis. Notamment, donc, le reportage donne beaucoup la parole aux personnes qui sont en demande de titre de séjour pour maladie. Et ça a complètement changé depuis fin 2016, la procédure. Donc voilà, c'est juste pour dire, on parle de l'ARS, l'ARS, qui est l'Agence Régionale de Santé. Maintenant, c'est plus eux qui ont ça en charge. C'est passé à l'OFI, donc l'Office Français d'Immigration et d'Intégration. Et aussi, une des choses pour lesquelles ces collectifs luttaient, et ben, ça a marché. C'est une lutte qui a marché parce qu'ils parlent beaucoup de la loi Besson qui rendait ce type de séjour encore plus difficile à obtenir puisqu'il fallait que les soins ne soient pas disponibles dans le pays. Donc disponibles, comme ils expliquent, ça veut un peu tout et rien dire. Ça veut dire que s'il y a un médicament quelque part à l'autre bout du pays qui coûte une blinde, et ben, tant pis, bah, ça voulait dire qu'on pouvait se retourner se faire soigner chez soi sans problème. Et du coup, on est revenu à avant la loi Besson, c'est-à-dire qu'on parle d'accessibilité, donc qui est censé théoriquement prendre un peu plus en compte la disponibilité concrète de comment les gens ont accès à ça. Après, est-ce que ça fait que les préfets donnent plus ce titre d'étranger malade? On n'est pas sûr, puisque malheureusement, même si les critères peuvent s'assouplir, les politiques des préfets ne s'assouplissent pas forcément. Voilà, et donc pour finir, ce petit montage est terminé sur une chanson de Suki, qui est une rappeuse allemande qu'on aime bien, et c'était le morceau « Constructive ».
Oui, pour la petite anecdote juste sur les questions de santé, encore le mois dernier, là, il y a eu une expulsion d'une personne qui a été du coup expulsée dans son pays parce qu'elle était séropositive, alors qu'elle était séropositive, et aussi peut-être parce qu'elle était séropositive, en tout cas justement au mépris complet de sa situation de santé et du fait qu'elle ne pouvait pas accéder notamment à la trithérapie dans son pays. On passe maintenant du coup à la deuxième partie de l'émission, et donc on est heureux, on est content en tout cas de vous accueillir. Du coup, on a invité donc des personnes qui vivent en squat pour nous parler de ce mode de vie, de cette lutte là aussi. Et alors pourquoi on vous a invité maintenant à cette émission? Parce qu'on est donc le 8 avril, que cette semaine ça a donc marqué la fin de la trêve hivernale, ce qui veut dire concrètement la remise à la rue pour tout un tas de personnes qui vivent en squat et qui bénéficient de la trêve hivernale, puisque on le sait, c'est pas toujours possible pour les squats, mais en tout cas voilà, pour ceux qui en bénéficient, ça veut dire qu'il y a eu des expulsions cette semaine. On avait du coup envie de revenir avec vous un peu sur, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la vie en squat? Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire, squatter? Voilà, est-ce que vous voulez en parler un peu?
Quand on vit en squat, souvent il y a une culture et des normes qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître.
Oui.
Et du coup, ça peut... d'un squat à l'autre, ça change, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus souvent une... des habitudes d'essayer de prendre souci des gens qui sont en galère et d'essayer de les aider. Et voilà, parce que j'ai l'impression que dans la plupart des logements qui ne sont pas des squats, on n'héberge pas quelqu'un chez soi ou on ne va pas l'aider pour lui donner de la bouffe. Dans certains squats en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des habitudes différentes, et puis aussi peut-être le fait d'être plus nombreux qui fait qu'on arrive à construire des solidarités un peu.
Les unes, les autres, ça fait combien de temps que vous vivez en squat à peu près?
Du coup, moi ça fait à peu près 2 ans que je vis dans différents squats à Grenoble.
Ok, et pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir choisi ou plutôt d'avoir subi? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait facilement, entre guillemets, de choisir ce mode de vie, cet habitat-là?
En fait, à la base, je me suis retrouvé à la rue. C'était assez galère. J'ai pu en sortir en allant dans un squat.
Ok. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autres possibilités?
Non, il n'y avait pas d'autres possibilités. Enfin, c'était en été, mais en été, la rue, c'est compliqué aussi. Il y a un squat qui m'a accueilli. Après, j'ai trouvé ça assez intéressant, ce qu'on pouvait y construire. Du coup, je suis resté un petit moment avec ces personnes-là. On s'est fait expulser. On a réouvert un autre squat. Je pense que j'ai un peu pris goût au fait de squatter et de ce qui peut se créer dans ce type de lieu.
Au quotidien, vous diriez que c'est quoi la différence entre habiter en squat et habiter dans une maison louée ou un truc légal, entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment présent, cette peur de la police ou d'une expulsion, ou cette galère aussi pour avoir l'électricité, par exemple, ce genre de choses?
Je pense qu'ici, on a un peu toutes et tous connu des coupures d'électricité. Et souvent, des moments, il fait froid et ça, c'est... Il y a quand même beaucoup de pression entre les coupures d'électricité, où du coup on se retrouve dans le froid, parfois en hiver, avec aussi des procès où on a la menace d'une expulsion toujours qui reste présente. Et on sait pas. C'est quand même des formes de logement qui sont très précaires. Après, souvent on essaie de s'organiser de manière assez horizontale, et du coup il y a moyen de discuter avec qui on habite, comment on habite. Et pourquoi aussi? Et c'est des choix qui sont pas trop possibles à faire dans des logements loués. Il y a plus d'autonomie, une forme de liberté un peu plus grande.
Genre si on veut casser un mur, on s'embête pas à se demander
ouais, c'est ça.
Ce que va dire le propriétaire, par exemple.
Et Andina, toi, tu nous disais que même s'il y a des difficultés, comme disait Lila, l'électricité et tout ça, des coupures d'électricité, la peur des expulsions potentiellement, toi, tu disais que tu aimais bien habiter en squat. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu aimes bien là-dedans ?
Bah, j'aime bien habiter dans un squat avec des personnes que j'aime bien, avec des personnes qui me comprennent, des personnes qui m'aident, et voilà.
Toi, ça fait combien de temps que tu habites dans le squat où tu es ?
Bah, j'habite dans un an et demi dans un squat avec ma famille. Et... En fait, pour moi, ma famille, c'est mes amis, c'est mon frère, ma soeur, avec des gens qui j'habite. Bah, pour moi, c'est tout le monde qui me comprend et qui m'aide, en fait.
Ok, c'est pas seulement la famille, comme on défend, on dit en France, juste biologique, etc.
Ouais, c'est pas tout ça, en fait. En fait, pour moi, la famille, c'est les personnes que j'aime bien, en fait. Il n'y a pas que ma mère et mon père et ma soeur et mon frère, en fait. Il n'y a pas que ça, en fait. Dans ma famille, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens qui... Voilà, pour moi, tout le monde, c'est une famille, en fait.
Et du coup, c'est un lieu où, toi, il y a une solidarité, un peu, tu
en fait. Il y a des personnes qui me comprennent, il y a des personnes qui m'aiment, en fait. C'est pas comme dans ma pays ou quelque chose comme ça, tu vois.
Du coup, tu veux dire, dans ton pays, par exemple, c'est des maisons où les gens sont moins attentifs, il y a moins de solidarité, etc.
En fait, en France, je sais pas comment dire, en fait. Il y a des personnes qui nous comprennent ici en France, mais en Roumanie, il n'y a pas. Dans ma pays, il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a pas des gens qui comprennent ou... Je sais pas, tu vois, ici en France, c'est plus mieux avec l'école, avec tout ça, et voilà. Mais en Roumanie, il n'y a personne qui peut t'aider. Si t'as pas, c'est bon, et voilà.
Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale ou ce genre de choses ? Comment ?
Alors oui, alors je crois que c'est toi qui as choisi la musique, Andina. Tu veux bien nous parler de ce que tu as choisi ? Comment ça s'appelle ?
Ça s'appelle Don't Let Me Down. Et bon, moi j'aime bien cette chanson parce que tout le temps je la chante, où je vais je la chante, je chante même dans l'eau douche, voilà.
Et ben là on n'aura pas le bruit de l'eau, mais on va écouter The Chainsmokers, Don't Let Me Down, merci Andina.
in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most.
Et donc, on est toujours sur Radio Kaléidoscope, le 97 FM, et c'est l'émission Micro-ondes qui prend les ondes de midi et demi jusqu'à 14h. Et on est avec des invités qui vivent en squat et qui nous parlent, qui nous ont parlé déjà de ça veut dire quoi concrètement habiter en squat, c'est quoi la différence entre habiter en squat et habiter dans une maison. Et voilà. Et du coup, on s'est écouté une petite musique. Merci Ondina. En tout cas, ça fait plaisir de danser un peu en studio là. C'était bien cool. Et on avait envie de parler avec vous aussi des questions un peu politiques, puisque le squat, c'est un mode de vie, mais c'est aussi, de ce que je comprends, un peu une lutte pour le logement. Notamment, du coup, déjà une lutte pour se loger, et pour se loger quand on n'a pas l'argent de le faire. Est-ce que ça va au-delà, par exemple? Est-ce que c'est aussi une manière de dénoncer le fait qu'il y ait des bâtiments vides, etc.?
Peut-être que je peux dire vite fait un mot. Ouais, je pense que il y a plein d'axes politiques dans les squats, mais c'est vrai que le logement, c'est une des principales, parce que ça nous concerne et qu'on élargit le problème. Et moi, par exemple, je fais pas mal partie aussi de, quand elle avait lieu, de l'assemblée des mal logés qui avait dans un autre squat, et où il y avait une espèce d'organisation beaucoup plus large de plein de personnes qui étaient ou non des squatteurs, à la rue, pas à la rue, hébergés ou pas, et qui en tout cas qui voulaient s'organiser collectivement pour squatter ou pour avoir un logement. Tous les bâtiments vides qu'il y a dans l'agglo, on trouve ça vraiment injuste qu'il soit vide, et du coup on essaye de faire en sorte avec d'autres personnes qu'il soit rempli de gens, que tout le monde ait un logement.
Ouais, c'est aussi, je voulais rajouter que avec le logement, il y a une logique où les personnes qui sont propriétaires peuvent s'enrichir sur le dos des personnes qui sont pas propriétaires, les loyers et tout ça. Squatter, c'est une des manières d'essayer de pas rentrer dans cette logique, voire de l'attaquer, cette logique, lutter contre du coup ce truc là des loyers, la spéculation immobilière.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, toi, t'as l'impression que c'est ça, il y a une pénurie de logements pour faire augmenter les loyers, en fait, c'est ça un peu?
Ouais, je sais pas quoi rajouter.
Ce que t'appelles spéculation immobilière, c'est ça, c'est le fait de faire monter les prix, en fait?
Ouais.
Ok.
Ayant pas mal fait de lutte sur le logement, on voit pas mal que des quartiers, il y a des flots de populations plutôt populaires, plutôt assez pauvres, et qui sont un peu expulsés de certains quartiers, remplacés par des populations souvent peut-être plus riches, ou des fois il y a même des maisons vides et qui restent vides des années, parce que justement. Et du coup, c'est cette logique-là, elle est en œuvre un peu pas mal à Grenoble. Là, en ce moment, on squatte dans un quartier où, dans quelques années, il y a un gros projet immobilier qui va ressembler à la caserne de Beaune. Et je pense que ça va, enfin, plein de gens plutôt pauvres vont devoir partir, et les squatteurs en font partie, mais pas que.
Cette spéculation, elle est plutôt encouragée par les pouvoirs publics. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont laissés vides, qui appartiennent soit à la mairie, soit à la métro. Donc en fait, dans leur politique d'urbanisme, ils encouragent aussi ce phénomène. C'est de plus en plus difficile de pouvoir se loger, qu'il y ait des grands bâtiments qui soient laissés vides.
Et justement, tu parles des pouvoirs publics un peu. Est-ce que vous avez des liens avec les pouvoirs publics? Par exemple, quand ces bâtiments appartiennent aux pouvoirs publics, quelle est la réaction un peu des pouvoirs publics? Est-ce que, enfin voilà, concrètement, par exemple, si un bâtiment appartient à la mairie, aujourd'hui, comment réagit la mairie en ce moment par rapport à ça?
Après, je pense pour eux, c'est une question d'image. Ça peut être des expulsions assez rapides. Aussi, ils peuvent essayer d'entrer dans des négociations pour, dans le cas de la mairie de Grenoble, qui essaie de se donner une image d'une mairie qui lutte avec nous sur le logement, d'essayer de récupérer un peu pour se faire de la pub nos occupations, en fait.
Et ça veut dire quoi, récupérer les occupations pour faire de la pub? Tu peux expliquer un peu plus?
C'est-à-dire que c'est des bâtiments qui laissent vide pendant plusieurs années, où on prend des risques pour les ouvrir, où c'est pas toujours facile. Et eux, après, ils arrivent, ou à les entendre, c'est comme s'ils avaient mis ces bâtiments à notre disposition, alors que... Ils ont rien fait pour, ils ont même lutté contre, en fait, qu'on ait ces bâtiments-là. Et maintenant, ils veulent en avoir le contrôle, un contrôle médiatique, et aussi sur toute la vie quotidienne. Et, ils essaient vraiment de se le réapproprier.
Et comment, qu'est-ce que ça veut dire, un contrôle sur la vie quotidienne? Ça veut dire mettre un vigile, par exemple, sur le bâtiment? Ça veut dire, proposer une convention?
Ils ont proposé pas mal de conventions. Avec des règlements intérieurs qui sont assez stricts, enfin qui sont assez aussi un peu méprisants, parce qu'on voit qu'au-delà de la volonté de récupérer ça, en fait ils connaissent pas du tout les problématiques du logement, et ils savent pas du tout comment c'est de vivre dans un squat, et c'est assez inadapté ce qu'ils font, c'est juste pour eux, en fait.
Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples, justement, de trucs inadaptés où ils comprennent pas du tout la logique?
Ça peut être des choses comme limiter le nombre de personnes, interdire d'avoir des bouteilles de gaz, obliger les gens à payer les fluides. Tout un tas de normes qui sont inaccessibles, en fait, pour nous, parce qu'on a d'autres manières de s'organiser qu'eux.
Et si, en l'occurrence, du coup, les personnes qui squattent actuellement refusent ce type de convention ou ce type d'accord, qu'est-ce qui se passe de la part de la mairie de Grenoble?
Ces propositions, en fait, elles se font jamais sans une menace d'expulsion qui est vraiment présente, en fait.
Ça fait partie de la négociation.
Ça fait partie de la négociation.
Oui, donc c'est une négociation qui est bien faussée, finalement, avec clairement un rapport de force qui est rappelé par la mairie. Et qu'est-ce que vous faites pour renverser ce rapport de force? Est-ce qu'il y a un peu des organisations collectives, des choix de, je ne sais pas, se montrer médiatiquement ou faire des actions symboliques?
Je crois qu'il y a surtout en ce moment, dans une période où les squatteuses et les squatteurs, il y a eu pas mal de gardes à vue abusives après des ouvertures où la police prétextait qu'il y a eu dégradation, du coup, alors qu'il n'y a pas de preuve de dégradation. Et après tout ça, je pense... Il y a une volonté de se réunir et d'être une force et de faire un peu des choses ensemble. Et il y a une semaine avec un festival où dans pas mal de squats dans l'agglo, il y a eu des activités, des débats, une expo sur 15 ans de squat à Grenoble. Il y a pas mal ce truc-là. Il y a aussi la manif sur le logement où il y avait pas mal de gens... de squatteuses et de squatteurs qui étaient. Du coup, c'est un peu dire qu'en fait, on n'est pas tout seul dans notre squat, mais en fait, on est un réseau et on s'entraide, et que ce soit pour les expulsions ou pour des aides aussi matérielles ou pour réfléchir ensemble, en fait, on n'est pas isolé.
Quand tu parles de la manif du logement, du coup, ça avait lieu quand, cette manif?
C'était le samedi 24.
D'accord.
C'était samedi 24 mars. Et
c'était quoi exactement?
C'était organisé conjointement. C'était pas mal le droit au logement qui organisait ça avec d'autres collectifs. Il y avait aussi des gens qui squattaient. Il y a eu aussi des prises de parole où ça dénonçait pas mal aussi la spéculation et ce qu'on appelle la gentrification. Moi, j'appelle ça l'embourgeoisement. Mais c'est la même chose, en fait. Il y a eu des prises de parole pour aussi parler du fait que la mairie propose des conventions inadaptées et qu'en fait, c'est un prétexte pour expulser. En fait, ils se donnent bonne image et pour après pouvoir expulser. Voilà.
Malheureusement, le temps passe un peu, etc. Non, on a encore un petit peu de temps. Vous voulez rajouter des choses par rapport à cette question? Est-ce que vous avez envie de même faire une dédicace à vos amis, rajouter quelque chose? Voilà, faites comme
vous. Il y a encore plein de bâtiments vides. N'hésitez pas. Allez vous renseigner et ouvrez-les.
Ok, apparemment, du coup, c'est chouette. Vous serez là éventuellement pour les aider. Justement, s'il y a une solidarité entre les squats, c'est bien aussi.
Et moi, justement, j'ai une petite question. C'est qu'au-delà d'une solidarité qui se crée à Grenoble entre squatteurs, squatteuses et alliés, différents collectifs ou associations qui peuvent soutenir, est-ce qu'il y a aussi une solidarité qui se crée entre villes? Et est-ce que vous êtes un peu au courant de qu'est-ce qui est mis en place? On parlait tout à l'heure des 10 jours d'autodéfense populaire à Toulouse. Est-ce que c'est un truc qui vous parle aussi de, d'essayer de se rencontrer, faire du réseau, ou vous avez déjà assez à faire à Grenoble?
En tout cas, moi, je suis pas trop ce qui se passe sur Internet, et j'ai l'impression que ça se passe pas mal par Internet, du coup, mais je suis un peu hors jeu, et j'ai un peu la tête dans le guidon, du coup, j'arrive pas trop à j'aimerais bien, et il se passe sûrement plein de choses, peut-être dans d'autres régions, entre différentes villes, mais j'ai l'impression qu'on a un peu, des fois, la tête trop prise par ce qui se passe ici, et que du coup, on a du mal à souffler, on est un peu souvent trop dans l'urgence, des fois, déjà, à Grenoble. Après, je sais pas, c'est mon point de vue.
En tout cas, ça se fait pas de manière organisée. Ouais. C'est plus informel, où les squats, c'est aussi des lieux de passage. Et du coup, des fois, il y a des gens qui viennent d'autres villes, qui nous tiennent au courant, qui demandent du soutien sur certaines choses. Et ça se fait comme ça.
Et justement, par rapport à d'autres villes, est-ce que le milieu est mieux organisé à Grenoble qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a plus de répression à Grenoble qu'ailleurs? Enfin voilà, Grenoble fait partie des villes où il y a une dynamique squat forte.
Bah, j'ai l'impression qu'en France, les villes où il y a des grosses dynamiques squat, c'est les grosses villes du coup. Et après, par rapport au nombre d'habitants, j'ai l'impression que Grenoble, ouais, il y a une assez forte dynamique. Pour ce qui est de la répression, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que dans beaucoup de villes, ces derniers temps, la répression, elle a augmenté.
Ce qu'on a l'impression, en gros, c'est que comme il s'est passé un peu dans d'autres pays, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, que petit à petit, on va arriver à un truc où ça va devenir de plus en plus difficile d'ouvrir des bâtiments. Il va y avoir une répression assez forte. À Paris, là, récemment, il y a eu un squatteur qui a pris de la prison ferme parce qu'il avait ouvert une maison, quoi. On a l'impression qu'ils vont peut-être passer des lois aussi. Enfin, en tout cas, ils en parlent contre ça. Et du coup, ça devient difficile, mais on continue. Après, c'est pas non plus... voilà, quoi. Pour l'instant, à Grenoble, il y a eu des gardes à vue, mais c'est pas allé... j'ai pas l'impression que c'est allé au-delà de ça, quoi. Du coup, on est encore dans quelque chose où ça va, quoi.
Et c'est vrai que je pense qu'il faut être assez vigilant, parce que bon, moi, je connais pas forcément l'histoire dans tous les pays que tu dis, mais notamment en Allemagne et en Suisse, ça a vraiment été ce qui a déclenché la fin du squat. C'est d'un côté la répression et de l'autre côté le conventionnement.
Ouais, ça va souvent de pair. Hein. On a vu ça aussi en Belgique. Ça va souvent de pair, où pour d'un côté pacifier le mouvement, on essaye de filer quelques conventions avec quelques associations. En Belgique, c'est comme ça, avec quelques associations qui prennent ça sur leur aile et qui chapeaute un peu tout ça dans différents lieux. Et d'un autre côté, pour les plus récalcitrants, une forte répression. Du coup, on espère être assez fort justement pour continuer à être intransigeant sur certaines choses qui nous tiennent à cœur et continuer à lutter pour que ces pratiques et ces modes de vie et en fait ils perdurent, parce que au-delà du fait que ça soit quelque chose de politique, en fait, c'est surtout que c'est dans les marges, et ça permet à plein de gens qui n'ont pas le choix. Moi, je pense que j'ai le choix, mais ça permet à plein de gens qui n'ont pas le choix de pouvoir aussi être embarqués dans l'aventure et passer un bout de temps et vivre d'une manière qui leur convient.
Vas-y. Parce que au-delà du logement, en fait, il y a plein de liens qui se font entre plusieurs problèmes, et ça, je pense que les pouvoirs, ils le savent, parce qu'en fait c'est assez compliqué de s'organiser quand on est vraiment dans une précarité où on n'a pas de logement, où il faut bouger tous les jours, où c'est compliqué de savoir où on va dormir, ce qu'on va manger. Et le fait d'avoir un toit, ça permet vraiment d'avoir un lieu pour s'organiser et construire des trucs un peu plus durables. Ça se fait sur plusieurs luttes. Ça peut être le cas sur des questions de migration récemment.
Mmh. Et, ouais, c'est aussi des lieux de passerelle, quoi, ouais, entre différentes luttes.
C'est ça.
Malheureusement, le temps tourne déjà un peu et on arrive un peu à la fin de l'interview. Voilà, si vous voulez dire un dernier petit mot, c'est encore possible. Et sinon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est super chouette d'être venu parler avec nous de ces questions. Et on invite du coup un maximum de monde à se mobiliser, non seulement contre les expulsions qui arrivent là en ce moment, puisque c'est donc la fin de la trêve hivernale, et un maximum d'ouverture, du coup, voilà, se tourner vers la solidarité entre les squats.
Merci. Merci.
On s'écoute une petite chronique du coup d'une de nos camarades et on lui fait une dédicace. Voilà, les mots qui nous changent. C'est un concept que je ne présenterai pas avant puisque je ne sais pas exactement duquel il s'agit, mais en tout cas on débrief juste après.
Les mots qui nous changent. Et pas n'importe quel mot, puisque ce sont les mots, les concepts, les théories qui nous ont marqués, accompagnés, parfois même révélés, nous, des femmes, des meufs, des gouines, des trans, dans notre parcours d'émancipation et d'autonomie. Des mots qui nous ont aidés à choisir, à décider, à agir. Les mots qui nous changent, c'est donc la rubrique de vulgarisation théorique où l'on se raconte comment la théorie traverse nos vies, jamais très loin de nos expériences, juste assez pour qu'on puisse la bricoler à notre sauce.
Moi, c'est Samia. Je voudrais parler du concept d'aliénation. Voilà, ce serait le concept que j'ai envie de développer. Qu'est-ce que c'est l'aliénation ? Il se trouve que j'ai eu l'occasion dans la vie de faire des études de philo. Et du coup, j'aimerais donner une définition un peu académique de ce qu'est l'aliénation. Mais après, j'ai envie de donner une définition plus personnelle et après dire ce que ça a pu m'apporter dans la vie. L'aliénation, j'ai envie de la définir, parce qu'il me semble que cette histoire, elle sert à ça, j'ai envie de la définir à travers l'histoire de la caverne de Platon. Pour situer, la caverne de Platon, c'est l'histoire de gens qui vivent dans une caverne et ils n'ont comme perception sonore que les bruits qui se répercutent sur les parois de la caverne. Ils n'ont comme perception visuelle que leurs ombres et les lumières qu'ils arrivent à avoir dans cette caverne, et etc., etc. Et en fait, ça fait que ça leur crée une image de la réalité qui est complètement façonnée par le fait qu'ils vivent dans cette caverne et qu'ils n'aient accès à rien d'autre. Ça, c'est les cavernes de Platon. Donc, en fait, l'aliénation, c'est sur la construction de notre connaissance et notre perception du monde que ça se joue, qui est limitée parce qu'on arrive justement à percevoir du monde. Notre connaissance est limitée parce qu'on arrive à percevoir du monde. Ensuite, Socrate, il a imaginé que, genre, il y avait un des personnages enfermés dans la caverne qui pouvait en sortir et qui pouvait aller voir à l'extérieur comment ça se passe. Et que du coup, il est aveuglé par la lumière, les sons sont pas du tout les mêmes parce que il est pas enfermé, enfin bref. Tout ça fait qu'il se met à découvrir la réalité autrement. Ce qui se passe ensuite, c'est que quand il retourne dans la caverne, et ben les gens le croient pas, arrivent pas à imaginer que ce qu'il raconte c'est vrai. Le lien avec ce dont je voulais parler, c'est la manière de construire ses connaissances. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance d'un côté et il y a l'expérience de l'autre. Et des fois, en fait, on a du mal à mélanger les deux. Les deux ne se rencontrent pas forcément. Du coup, les trucs sur lesquels on peut réfléchir qui n'ont pas forcément d'impact dans la réalité, dans notre manière de vivre, on appelle ça des trucs métaphysiques. C'est au-delà du physique, c'est au-delà de ce dont on peut faire l'expérience dans la vie. Et puis, il y a les connaissances qui sont, elles, empiriques. C'est les expériences de la vie quotidienne desquelles on tire des enseignements. C'est pour ça que je parlais de la différence entre la connaissance qu'on acquiert avec l'expérience et la différence de la connaissance qu'on acquiert ex nihilo de l'expérience et qui du coup est juste de la connaissance métaphysique. Donc voilà, ça c'est un peu le souvenir que je garde de mes études de philo. Alors du coup, ce concept-là, il m'a intéressée dans la vie tout particulièrement parce que la vie n'a pas toujours été facile, comme pour plein de monde, mais bon voilà, elle n'a pas toujours été facile. Et l'intérêt que j'ai eu à comprendre ça, c'est que je dirais que l'aliénation, c'est quand on vit des choses et qu'on a du mal à imaginer qu'elles peuvent être autrement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut très bien vivre dans une famille où il est, par exemple, normal que tout le monde marche sur les mains. Et à un moment donné, on sort de ce cadre familial, on se retrouve confronté à l'extérieur, à d'autres familles où il est normal que les gens marchent sur les pieds. Et là, on est choqué, on se retrouve à découvrir quelque chose de complètement différent. Mais le problème, pour montrer l'impact de l'aliénation, on voit bien qu'en fait, la norme, c'est pas forcément de marcher sur les mains, mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'on rentre dans notre cadre familial, qu'on y retourne, quand on se remet à marcher sur les mains pour rester adapté à ce cadre familial, eh ben on se sent bien. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été élevé, et pour nous, ça, c'est la norme. Voilà, on a beau sortir de notre cadre, changer complètement d'univers, et se rendre compte qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de penser qui sont plus simples, plus saines, ou je sais pas quoi. On a beau le savoir, quand on retourne dans ce cadre dans lequel on a été élevé, dans nos tripes, les choses se remettent à l'endroit, on se sent bien, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est pas forcément quelque chose qui nous est agréable, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Et du coup, voilà, c'est ça l'aliénation, pour moi. C'est que même quand on y réfléchit, c'est nos tripes qui nous disent qu'est-ce qui est à l'envers et qu'est-ce qui est à l'endroit. Et des fois, ce qui est à l'endroit dans nos tripes, c'est pas du tout ce qui est à l'endroit dans le monde normal. Donc ça, c'est l'impact de l'aliénation dans la vie, pour moi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ce concept-là d'aliénation, parce que ça m'a permis de comprendre qu'en fait, on vit, on est élevé d'une certaine manière. En fait, c'est pas forcément normal, ces choses-là qui se passent. Des fois, ça n'a rien à voir avec ce qui est bien et tout. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais été élevée dans une famille où on marchait sur les mains au lieu de marcher sur les pieds. Et ça m'a permis de faire un pas de côté et me rendre compte que, en fait, ça se passait pas bien dedans, qu'on avait de mauvaises habitudes et que ça n'avait rien de bénéfique, que les choses auraient pu être plus simples, en fait, tout simplement, dans la vie. Et voilà, et ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'il y a plein de choses dans la vie qui me paraissaient normales, que ça se passe comme ça. Genre, ne serait-ce que dans un rapport homme-femme, entre guillemets, si on reste dans un monde binaire, enfin, au début, en tout cas, mon monde était binaire, si on reste dans un rapport homme-femme, me rendre compte que la vie que j'avais toujours vécue, les choses dans lesquelles j'avais été élevée, n'étaient pas normales. Et il a fallu réapprendre complètement mon rapport aux autres. Du coup, par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à n'importe quel autre individu en dehors du cercle familial, de cette caverne de Platon qui était le cercle familial. Alors voilà, c'est ça que ça m'a appris, c'est découvrir le monde autrement et construire mes connaissances autrement. Et par là même, changer qui j'étais pour être une personne qui était plus en lien avec ce que j'ai envie d'être dans la vie, à savoir une personne libre de penser ce qu'elle veut dans sa tête. Parce que c'est ça le problème avec l'aliénation, c'est que c'est inconscient, ça reste toujours là, derrière, et ça vous façonne votre manière de penser, votre rapport au monde, votre manière de construire votre imaginaire, construire votre pensée. Construire votre imaginaire aussi, genre par exemple, des fois il m'était impossible de rêver, même dans mes rêves, l'endroit où on est censé être le plus libre possible, impossible de rêver d'un monde où les gens marcheraient sur les pieds. Je rêvais que d'un monde où les gens marchaient sur les mains. Du coup, voilà, c'est ça l'aliénation, ça va jusque-là. On est incapable de penser les choses autrement qu'à travers notre aliénation. Et du coup, même aujourd'hui, même si j'ai compris plein de choses, et que ça m'a permis de prendre de la distance et de savoir qui je suis, plus, en tout cas, c'est certainement pas fini, mais en tout cas, je sais plus qui je suis et où j'ai envie d'aller, bah, malgré ça, des fois, je rêve que je marche sur les mains, et en fait je me sens bien. Mais c'est pas parce que j'aime marcher sur les mains, mais c'est juste parce que, en fait, c'est quelque chose que je connais. C'est ma merde, je la connais, je la gère, elle est facile. Voilà. Moi je dirais que se rendre compte d'à quel point on est façonné par ce qu'on a vécu, ou n'importe quoi, ça peut être les médias aussi qui nous façonnent, enfin n'importe, s'en rendre compte, c'est se permettre de douter et se permettre de remettre les choses en question, parce que peut-être qu'on n'atteindra jamais la vérité parce qu'on est aliéné dans la vie, mais peut-être que si on comprend à quel point on est aliéné, on s'autorise à douter et on s'autorise à remettre en question ce qu'on croit savoir, et on a peut-être plus de chances d'accéder à la vérité.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Ondes sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Comme d'habitude, nous allons finir l'émission avec des brèves et l'agenda. Et je te passe la parole, Abdel, pour nous faire une brève sur ce qui s'est passé il y a une semaine à Gaza.
Merci Françoise. Le 30 mars dernier, un vendredi meurtrier pour les Palestiniens et les Palestiniens en lutte contre l'occupation dévorante d'Israël, lors d'un rassemblement pacifique dans la bande de Gaza pour le droit au retour, sur leur terre d'origine, droit reconnu par l'ONU, mais bien sûr jamais respecté et jamais appliqué. Tsahal, l'armée israélienne, a répondu, comme à son habitude, très violemment à balles réelles. Le bilan, 16 Palestiniens tués et 14 000 blessés, dans plus de la moitié, par des tirs à balles réelles. Voilà, ça se passe de commentaires. Je repasse la parole à Baptiste pour la suite de l'agenda.
Ouais, l'occupation israélienne toujours aussi dégueulasse. Malgré ce qu'en disent les États-Unis. Pour l'agenda, du coup, il y avait 4 dates. Ça commence le 10 avril à la MNEI à partir de 20h. C'est une soirée organisée par Survie qui s'appelle Le crapuleux destin de Robert Ménard Martin. Et donc, c'est sur le génocide au Rwanda et notamment la complicité française pour les questions de génocide. Le 11 avril, à partir de 10h, à la salle polyvalente de l'Île Verte, ce sera le café Parlons-en. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un café de débat et d'échange pour les personnes qui sont à la rue. Et le thème de ce mois-ci sera sur le système D, comment on se débrouille quand on vit à la rue, voilà, quels sont les plans qu'on utilise, etc. Le mercredi 18 à 18h, il y a une soirée à l'engrenage et c'est une projection d'un film de Pierre Carl qui s'appelle « Les ânes ont soif ». Et c'est donc sur notamment l'Équateur et le modèle du socialisme du 21e siècle, etc. Et aussi quel a été l'accueil de la presse française de Raphaël Correa quand il est venu en France. Et puis on termine l'agenda avec une date du coup le 22 avril, à partir de 13h à la BAF, c'est donc chemin des Alpins, et ce sera du coup une journée qui propose des modifications corporelles, donc, et également un salon de thé, une discussion, et ce sera donc en soutien à Radio Rageuse, une plateforme sur internet d'émissions de radio féministe. Voilà, on termine du coup cet agenda, on termine cette émission, on remercie nos invités d'avoir bien voulu y participer. On vous dit pour notre part, et ben du coup, rendez-vous début mai pour notre prochaine émission. Ce sera de mémoire le 6 mai. Voilà. Et d'ici là, et ben continuez la lutte, continuez les luttes. Et voilà, on compte sur vous. Et puis et à
vous
bientôt.
Vous pouvez toujours nous écouter en podcast sur le site letami-info et également tous les dimanches de 12h30 à 14h sur Kaléidoscope.
Du coup, le morceau qu'on va s'écouter, ça s'appelle Diaspora de Nighty Scott.
Merci, à bientôt.
Salut. Merci.
À bientôt.
Vamos a la playa. You are free to transcend. You are free to be creature. And you are free to bend.
While I'm banging on my bongo, rah.